Écho d'ici, écho d'ailleurs.
Bruno Faure.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission qui se donne du temps pour comprendre l'actualité économique dans le monde. Jamais dans l'histoire récente, un conflit territorial et armé n'avait eu de telles conséquences sur le reste de la planète. Le pétrole, le gaz, le nickel, l'aluminium, les céréales et bien d'autres produits hautement dépendants du marché russo-ukrainien. Des millions et des millions de personnes voient s'éroder leur pouvoir d'achat, déjà affaibli par la forte inflation de ces derniers mois. Ceux qui le peuvent limitent leurs déplacements motorisés. Des millions d'autres sont menacés de pénuries alimentaires. La phrase de la semaine, c'est celle du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres.
Alors que la guerre prend de l'ampleur en Ukraine, les économies mondiales, et en particulier celles des pays en développement, ont une épée de Damoclès au-dessus d'elles. Nous devons tout faire pour éviter une tornade de famine et la destruction du système alimentaire mondial.
La guerre économique en Russie, ce que son président Vladimir Poutine qualifie de blitzkrieg économique, guerre éclair économique, pour faire référence à l'offensive de l'Allemagne nazie sur le territoire soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous allons y consacrer encore une bonne partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs et se poser plusieurs questions. La Russie est-elle vraiment au bord du gouffre financier? Saura-t-elle éviter le défaut de paiement? Les sanctions occidentales sont-elles déjà en train de payer? Que va faire la Chine? Quelles implications monétaires? Nous sommes en ligne dans un instant avec un économiste spécialiste des marchés financiers, des banques centrales, des pays émergents, des relations entre l'Occident et l'ex-bloc soviétique. Cette crise majeure pour un commerce mondial martyrisé par les années Covid, et ce n'est peut-être pas fini, nous allons en parler dans la seconde partie de l'émission avec un invité prestigieux qui vous a accordé un entretien, Olivier Roger. Il s'agit de Marc Tardiop.
Le directeur général de la SFI, qui est la branche secteur privé de la Banque mondiale, et avec lui, nous aborderons les questions de relance économique en Afrique.
A tout à l'heure pour cet entretien avec Marc Tardiop. Vous pourrez le partager, le commenter sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook, notre compte RFI Echo. Vous avez été nombreux et nombreuses à écouter et regarder en vidéo notre entretien la semaine dernière avec Rebecca Enonchong. Sachez que depuis l'émission, cette femme d'affaires camerounaise a ajouté une autre ligne à son CV déjà bien fourni. Elle est désormais la vice-présidente de la fondation de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui vient de lancer un appel urgent pour l'Ukraine. C'était après le bombardement d'une maternité à Mariupol, dans le sud du pays.
À la Douma, ce ne sont pas les pupitres qui claquent, ce sont des mineurs en grève qui frappent de leurs casques les escaliers de marbre pour se faire entendre.
Les employés des bureaux de change n'en finissent pas de modifier le cours du rouble affiché à la devanture de leurs établissements. 10, 11, 12, 13, 14 roubles pour un dollar. La monnaie russe dégringole au fil des heures.
Vous venez d'entendre deux archives sonores des journaux de RFI. Philippe Couve, au micro, à Moscou, 1998, une autre époque. Vladimir Poutine était prêt à accéder au pouvoir dans les ruines de l'Union soviétique. Et déjà, une crise économique, financière, majeure. Le rouble, au plus bas, il sera dévalué. Les Russes, dans la pauvreté. Le gouvernement annonce alors un défaut de paiement sur la dette du pays. 24 ans plus tard, autre temps, autre circonstance. Vladimir Poutine aux commandes lance ses armées à l'assaut de l'Ukraine. Cette fois, ce sont les Occidentaux, par des sanctions économiques plus ou moins ciblées, qui plongent la Russie dans un gouffre d'incertitude. La monnaie nationale en chute libre, les finances du pays en danger. Va-t-on vers la faillite? Le défaut de paiement, comme le laissent entendre les agences de notation? On va tenter d'y voir plus clair. Bonjour Michel Santi.
Bonjour.
Vous êtes économiste spécialiste des marchés financiers. Il y a un peu plus d'un mois, vous avez publié un article intitulé « Russie, puissance pauvre ». La Russie est si vulnérable que ça?
Ben écoutez, la Russie est très vulnérable de par structurellement, je dirais, parce que c'est un pays qui a construit toute sa richesse sur l'exportation de matières premières, et en l'occurrence principalement deux matières premières que sont le pétrole et le gaz. Et la Russie a essayé de diversifier son économie au début des années 2000. Malheureusement, cela n'a pas vraiment réussi. Le pays est revenu sur ses anciennes habitudes et voilà pourquoi, selon moi, le pays est vulnérable parce qu'il n'y a pas vraiment de consommation, il n'y a pas vraiment de classe moyenne qui soit capable de consommer et parce que c'est très, très nocif de baser son économie sur des exportations, que sur des exportations. On est en train de voir un petit peu le cas de l'Allemagne qui souffre maintenant avec ses exportations, non seulement des exportations, mais basées sur une ou deux matières premières.
La Russie qui avait pourtant réussi à assainir ses finances, et surtout depuis 2014, l'offensive en Crimée.
En effet, la Russie a fait beaucoup, beaucoup d'économies, de par la volonté affichée et déterminée de ses dirigeants au plus haut niveau. Mais cet assainissement, qu'on a même été au-delà de l'assainissement, puisque la Banque centrale russe a pu thésauriser des réserves tout à fait dignes de ce nom, ces réserves n'ont pu se faire qu'au prix de sacrifices de la population qui n'a pu profiter de cette manne énergétique qu'exportait leur pays. C'était une stratégie pensée et réfléchie au plus haut niveau par Poutine et par ses lieutenants de construire ce trésor de guerre pour, bien sûr, parer à des conflits qu'il prévoyait, comme nous l'avons vu en Ukraine. Ce que toutefois il n'avait pas prévu, c'est que l'Ouest et principalement les États-Unis d'Amérique, à la faveur de la crise de l'Ukraine, confisquent une partie de ces réserves de la Banque centrale.
Beaucoup de réserves placées à l'étranger, c'est on va dire, une difficulté ou une faiblesse?
C'est un phénomène inédit déjà, c'est un phénomène sans précédent, que des gouvernements étrangers figent, si vous voulez, les réserves d'une banque centrale, parce qu'il y a quand même ce qu'on appelle un gentleman's agreement, c'est-à-dire un accord moral, un accord tacite, qu'une banque centrale ne peut pas geler les réserves de sa consœur. La banque centrale russe avait des comptes un peu partout ailleurs, aux États-Unis, auprès de la Banque centrale européenne, bien sûr auprès de la Banque de Chine, auprès de la Banque du Japon, parce que cela fait partie de la vie entre guillemets quotidienne d'une banque centrale et d'un pays. Vous savez, quand un pays importe de la marchandise, il y a des transferts de fonds. Une partie de ces transferts de fonds se fait par la banque centrale. Parfois, il y a trop de fonds qui sont payés. Parfois, il n'y a pas assez de fonds qui sont payés. Et donc, le différentiel reste auprès de la banque centrale du pays exportateur ou importateur. Ça fait partie de la vie habituelle commerciale et financière. Et là, effectivement, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, donc les autorités russes n'ont pas prévu le scénario extrême, il faut bien le dire, extrême, de gel d'une partie des avoirs de leur propre banque centrale déposés auprès d'autres banques centrales étrangères, ce qui, bien sûr, ne fait que exacerber la vulnérabilité russe.
Est-ce que dans un contexte très différent, Michel Santi, est-ce que le scénario de 1998, un défaut de paiement, est plausible aujourd'hui?
Je pense qu'il est inévitable. La question n'est pas s'il va y avoir un défaut de paiement russe, la question c'est quand.
Une question de jours, de semaines?
Oui, de jours ou de semaines, je dirais. Je veux dire, je vais peut-être m'engager, mais je prévois un défaut de paiement russe au plus tard fin mai. La Russie est tellement encerclée, l'économie russe, je dirais, et c'est sans jugement de valeur, bien sûr, par rapport à ce qui se passe en Ukraine, mais je parle d'un point de vue froid, en valeur absolue. L'économie russe est tellement étouffée. Si vous voulez, il y a vraiment ce que je qualifierais d'entreprise de destruction méthodique, avec méthode, de l'économie russe, tant et si bien que je vois difficilement comment est-ce que la Russie pourrait honorer ses engagements vis-à-vis de l'étranger. Mais je vous dirais aussi autre chose, que même si la Russie pourrait honorer une partie de ses engagements étrangers, il y aura des décisions politiques au plus haut niveau pour ne pas le faire. Pourquoi, si j'étais moi un haut responsable russe et que je voyais que le monde entier, disons le monde occidental, met en place contre mon pays des mesures drastiques de sanctions, il va de soi que si j'ai encore quelques réserves en devise, je ne vais certainement pas les payer aux créanciers de ces mêmes pays.
On est vraiment dans un jeu de poker menteur, puisque dans l'autre sens, la Russie accuse elle-même l'Occident de vouloir provoquer ce défaut de paiement de façon artificielle en gelant les comptes de la Banque de Russie.
Et en plus, ce qui s'est passé depuis ces dernières semaines en Russie, c'est qu'il est aussi sans précédent. Poutine et ses lieutenants ont décidé de nationaliser les entreprises étrangères qui y étaient restées en Russie, c'est-à-dire de s'accaparer tout simplement leurs biens, mais également de saisir, par exemple, les avions étrangers qui restaient encore dans les aéroports russes. Donc vous voyez que la confiance est définitivement rompue entre ces deux parties.
Michel Santi, les conséquences peuvent être lourdes et durables, puisqu'en cas de défaut de paiement, la Russie pourrait ne plus avoir accès aux marchés financiers, et ça pendant des années et des années. Ça a été le cas après 1998.
Bien sûr, très durable, mais même s'il n'y a pas de défaut de paiement, je veux dire, les grandes entreprises mondiales se sont retirées de Russie. Et ça, c'est dans le meilleur des cas, dans le pire des cas. Ces entreprises ont vu une partie de leurs actifs et de leurs avoirs encore maintenus en Russie, nationalisés par la Russie, confisqués par la Russie. Même s'il n'y a pas de défaut de paiement au sens strict du terme, la confiance, comment est-ce que ces entreprises voudront à nouveau revenir et réinvestir en Russie avec cette menace, avec ce précédent si ça va mal se passer, nous allons perdre nos bureaux, nous allons perdre nos avions, nous allons perdre nos actifs investis dans le pays. Donc vraiment, la confiance maintenant, on est tout près du point de non-retour.
Alors à l'origine, Michel Santi, à l'origine de ce risque économique, il y a les sanctions imposées par les Occidentaux, notamment sur le pétrole, l'embargo américain. Les Européens, eux, sont très divisés. Je voudrais que l'on écoute un économiste russe, expatrié à l'étranger, en l'occurrence en France, Sergueï Gouriev, professeur et directeur de recherche à Sciences Po Paris, ancien chef économiste de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Il a quitté son pays en 2013. C'est un ardent opposant à Vladimir Poutine. Yann Vandermatt, de la rédaction anglaise de RFI, l'a interrogé il y a quelques jours. Quel sera, selon Sergueï Gouriev, le poids de ces sanctions sur les finances de la Russie.
Aujourd'hui, c'est là que se joue la bataille, dans la mesure où les ressources de la Banque centrale ont été saisies. La Russie a donc perdu son stock de dollars, ce qui explique pourquoi le rouble vaut maintenant la moitié de ce qu'il valait auparavant. Mais les rentrées en dollars continuent. Donc s'il n'y a pas d'embargo pétrolier avec ce niveau de prix du pétrole, la Russie recevra un afflux record de dollars et elle reconstituera ses réserves assez rapidement. Donc à moins que le marché ne s'arrête, la Russie aura de l'argent à la fois en dollars et en roubles pour continuer à mener la guerre. Poutine aura de l'argent à dépenser pour la propagande. Voilà pourquoi l'embargo pétrolier pourrait faire pencher la balance. Maintenant, en plus de l'embargo américain, il y a aussi un embargo privé sur le pétrole. De nombreuses entreprises refusent d'acheter ou alors de transporter du pétrole russe pour préserver leur réputation. C'est pour cela que la Russie a déjà des problèmes pour engranger des dollars. Sa situation n'est pas bonne, mais dans les semaines à venir, soit l'Europe versera moins d'argent à la Russie, soit la Russie va stabiliser son économie, son budget et sa monnaie.
À votre avis, jusqu'à quel point la Chine va soutenir la Russie? On a vu leur histoire d'amour s'exprimer à l'ouverture des Jeux Olympiques à Pékin entre Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping. Il y a des accords sur le gaz. Jusqu'où ira Xi Jinping?
Si Xi Jinping voulait sauver la Russie, il le pourrait. Il peut stabiliser l'économie russe, il a les fonds pour cela. Si le marché du pétrole ne reprend qu'à moyen terme, il peut prépayer ce pétrole et donc stabiliser l'économie russe. Mais je ne pense pas que cela va se produire. Nous constatons que certaines des plus grandes banques chinoises se sont conformées aux sanctions américaines. Nous voyons que les banques de développement multilatérales basées en Chine ont cessé leurs activités en Russie. La Chine hésite. D'un autre côté, si la Chine dit « nous voulons arrêter cette guerre et faire en sorte que Poutine arrête cette guerre », cela se produira très rapidement. Apparemment, la question fait débat en Chine. Et je pense qu'il est maintenant dans l'intérêt de l'Occident, d'une manière ou d'une autre, de convaincre la Chine de tenir tête à M. Poutine. La Chine n'a pas intérêt à ce qu'il y ait une guerre en Europe parce que l'Europe est un marché très important pour les produits chinois et ses investissements. Cette guerre va détruire l'économie ukrainienne et russe, mais elle aura aussi un impact énorme sur l'économie européenne. Donc tout cela est contre les intérêts chinois.
L'économiste russe Sergueï Gouriev, interrogé par Yann Vandermatt de la rédaction anglaise de RFI. Nous sommes toujours avec l'économiste Michel Santi. Michel Santi, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que les Chinois se trouvent face à un dilemme d'un point de vue économique et financier, soutenir ou non la Russie dans cette affaire ?
Écoutez, je ne partage pas tellement l'opinion, la position de M. Gouriev. Selon moi, la position chinoise est claire. Ils soutiennent la Russie. M. Poutine a fait un voyage en grande pompe début février, donc quelques semaines avant l'invasion en Ukraine. Les deux pays, la Chine et la Russie, ont fait une déclaration qu'ils se soutiendraient sans limite. Je ne pense pas que le dirigeant chinois soit de nature, une personnalité de nature à affirmer ce genre de déclaration très forte de soutien pour ensuite tourner sa veste, d'autant plus que la Chine gagne au marasme actuel de l'Occident. Je dirais que s'il n'y a qu'un seul pays qui pourrait tirer fort bien son épingle du jeu de cette crise, c'est bien la Chine. J'ai rédigé un article il y a quelques jours au titre évocateur « Chine, 2 points, victoire financière sans guerre militaire ». La Chine, pour parler familièrement, joue sur du velours.
Alors justement, vous parlez d'une victoire financière. Vous pensez que la Chine va s'engouffrer dans cette brèche avec sa monnaie, le yuan par exemple, qui est utilisé déjà en Russie ?
Absolument. La Chine d'abord a intérêt, de manière tout à fait froide et glaciale, à ce que les États-Unis et l'Europe d'une manière générale, mais surtout les États-Unis, qui vraiment sont plus que son compétiteur, qui est son ennemi quand même, la Chine a vraiment intérêt à ce que les États-Unis s'enfoncent dans le marasme, premièrement. Ensuite, pour parler plus factuellement, plus concrètement, oui, bien sûr, la Chine est en train de concentrer tous ses efforts depuis une dizaine d'années pour que le yuan, sa monnaie, devienne une monnaie de référence au niveau mondial. On a beaucoup parlé ces dernières semaines du réseau SWIFT, qui est donc le premier réseau mondial de transfert de fonds à travers le monde. Pour tout type de transfert bancaire, etc., eh bien, les statistiques ont démontré que le yuan, maintenant, est la quatrième devise la plus utilisée en termes de transferts bancaires internationaux, après le dollar, bien sûr, après l'euro, bien sûr, après le franc suisse, mais juste après vient le yuan. Et donc, vous voyez que le yuan s'installe dans le paysage. Autre phénomène fondamental qui est peut-être un petit peu passé inaperçu, l'Arabie saoudite, qui est quand même le premier grand exportateur de pétrole au monde et un des alliés historique des États-Unis, l'Arabie saoudite, est en train de signer des accords pour vendre son pétrole à la Chine, non plus en dollars, mais en yuan.
C'est la fin de la suprématie du dollar, selon vous ?
Ah ben, vous savez, la suprématie du dollar, c'est la perte de suprématie du dollar, c'est ce serpent de mer dont on parle depuis 30-40 ans. Mais quelque part, ce qui a établi et ce qui a toujours consacré et solidifié la suprématie de ce dollar, c'est que le pétrole s'achète et se vend en dollars. Donc le jour où il y aura le premier exportateur mondial de pétrole qui vendra en tout cas une partie de son brut en yuan, ça voudra dire que cette statue est en train d'être sur un piédestal fragilisé. Quelque part, c'est presque une trahison vis-à-vis des États-Unis. Mmh. Mais cette trahison vis-à-vis des États-Unis de la part de l'Arabie saoudite ne serait jamais intervenue s'il n'y aurait pas eu l'émergence d'un géant qui est la Chine.
Dernière question, Michel Santi. Quels sont les atouts dans la manche de Vladimir Poutine, d'un point de vue financier face à l'effondrement de la monnaie nationale, le rouble ? On parle beaucoup de l'achat d'or, on parle beaucoup des crypto-monnaies, du contrôle des crypto-monnaies, du rouble numérique.
Écoutez, ça, c'est peut-être des solutions à moyen terme. Je ne crois pas du tout aux ventes d'or de la Banque de Russie parce que, à mon avis, ça ne se fera qu'en toute dernière instance. Ce serait quelque part que les Russes vendent toute partie de leur stock d'or. Ce serait vraiment un aveu d'échec cinglant pour les dirigeants actuels. Ce serait un message politique terrible qu'ils adresseraient à leur population. Non, il y a des solutions. La solution, c'est par exemple que la Russie est en train de négocier très sérieusement avec l'Inde. Je vous signale que l'Inde est un des pays qui s'est abstenu lors de la condamnation à l'ONU de la Russie. L'Inde s'est abstenue en même temps que la Chine. Donc l'Inde est en train d'envisager très très sérieusement d'acheter du pétrole russe avec une réduction entre 15 et 25% par rapport au prix officiel. Mm. Donc oui, il y a des portes de sortie.
Les crypto-monnaies ?
Les crypto-monnaies, c'est possible, mais c'est extrêmement difficile à hacker. Les crypto-monnaies sont d'une certaine manière contrôlées aussi beaucoup par la Chine. Vous savez, les États-Unis qui restent quand même la première puissance financières au monde peuvent très bien demander à la réserve fédérale américaine d'imprimer 1 000 milliards de dollars, d'inonder tout le marché des bitcoins et des Ethereum afin que leur valorisation s'effondre, uniquement pour nuire à la Russie. Donc ça, c'est pas des solutions, ça.
Merci, Michel Santi.
Merci. À bientôt.
Et comme vous le savez, RFI est mobilisé pour suivre pas à pas cette crise russo-ukrainienne. Dans les prochains jours, une série de reportages dans Afrique Économie. Comment remplacer la farine de blé qui vient à manquer ? Beaucoup d'entrepreneurs proposent des alternatives. Exemple, la farine de banane plantain que développe Narcisse Aman à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Lorsque la banane est faite, vous récupérez cette banane-là, vous faites un ensemble d'opérations qui permettent d'éplucher jusqu'à obtenir la chair. Et cette chair-là, elle est broyée et ensuite essorée et puis séchée. On obtient une farine qui est panifiable, qu'on peut utiliser pour faire du pain et puis tout ce qui est pâtisserie et viennoiserie.
Comment remplacer la farine de blé ? Série de reportages à retrouver dans les prochains jours dans Afrique Économie sur RFI et RFI.fr.
Abidjan, 97.6 FM.
La Côte d'Ivoire et la plupart des pays africains frappés par l'inflation, pas seulement des prix alimentaires, une conjoncture qui handicape les entreprises sur le continent. Dans un instant, notre entretien avec Martar Diop, directeur général de la Société financière internationale, avant cela. Pour illustrer les questionnements des patrons africains, je vous propose d'écouter Moussa Elias Farrakhan, président de la Confédération patronale unique des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. Deux sujets de préoccupation, la fiscalité, mais d'abord le financement par les banques.
Pour nous, les banques, il n'existe pas de banque dans nos pays. Non, il n'existe pas de banque. Il n'existe pas. Je pourrais les qualifier de grosses tirelies, voilà, où on met de l'argent et puis vous venez récupérer votre argent quand vous en avez besoin, c'est tout. Mais des banques qui financent l'économie, qui financent les PME, je n'en connais pas vraiment. Voilà. Parce qu'on vous dira de venir avec des garanties. Et quand vous donnez une garantie à hauteur, par exemple, de 70% ou 80%, les 20%, la banque ne veut pas prendre des risques. Donc il faut qu'on ait des banques, nous ayons des banques capables de prendre des risques, capables de véritablement comprendre comment les petites et moyennes entreprises travaillent. Voilà. Et tant que les banques ne comprendront pas cela, elles seront toujours un frein. Il faut qu'on arrive à ce que je pourrais qualifier de banalisation du crédit, complètement. Il faut que le crédit soit banal pour que les gens puissent travailler et après rembourser, emprunter, travailler, rembourser. Voilà la solution. C'est pour cela que la Confédération a toujours demandé à rencontrer les autorités pour comprendre, pour leur faire des propositions. Et ces propositions vont permettre certainement de repenser la banque. Pourquoi on ne repenserait pas la banque en Afrique? Donc le problème des PME, en réalité, ce sont les banques. Parce que l'État a fait des efforts, l'État a mis un fonds de garantie à l'époque à la disposition des PME. Mais combien de PME ont pu bénéficier de ce fonds de garantie? Je n'en connais pas vraiment. Il faut que l'État revoie ça totalement pour permettre aux PME de bénéficier de l'argent, d'être beaucoup plus souples. Les banques ne sont pas souples. Je ne sais même pas comment elles font du bénéfice.
Les banques, c'est une chose, Moussa Elias Farrakhane. Et puis, il y a les impôts, la fiscalité qui est en train d'évoluer avec la mise en place de la ZLECAF, la zone de libre-échange.
Nos administrations ne percutent pas vite. Elles sont lourdes. Elles mettent des instruments pour dire, voilà, je mets par exemple l'impôt minimum forfaitaire. Mais les PME disent, n'en veulent pas. Mais pourquoi vous persistez à mettre? Ce n'est pas à l'administration de nous dire ce que nous devons faire. Ce n'est pas à l'État d'imposer ses vues, mais c'est de se mettre dans les réalités des PME pour en faire des lois. Par exemple, l'administration fiscale et les petites et moyennes entreprises, la Confédération patronale unique des PME, on ne parle pas le même langage. D'un côté, nous leur disons que l'approche quantitative qui consiste à fiscaliser, à dire oui, je vous fiscalise parce que vous avez un chiffre d'affaires de ceci, vous avez cela. Pour nous, ça ne marche pas. Voilà. Parce qu'il s'agit de commerce, il s'agit de transactions économiques. Qui mieux que la Confédération patronale unique des PME peut avoir des accords avec son homologue du Nigeria, avec son homologue du Mali, avec son homologue du Maroc? Voilà, c'est ça la réalité. Donc, la ZLECAF, nous sommes entre espoir et scepticisme. Espoir, parce que nous disons que la ZLECAF, si elle est bien contrôlée et que le secteur, la Confédération, les petites et moyennes entreprises s'approprient réellement de façon pratique et pragmatique, il n'y a aucun problème. Nous allons pouvoir faire du commerce, nous allons travailler ensemble avec nos homologues des autres pays. C'est ça la réalité. Mais nous sommes sceptiques parce que nous ne voyons pas sur le terrain, rien n'est fait en Côte d'Ivoire pour que nous puissions dire que nous sommes prêts pour affronter la ZLECAF, le commerce intercontinental.
Merci Moussa Elias Farrakhane, président de la Confédération patronale unique des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire, des entreprises africaines qui cherchent de la visibilité, de la lisibilité et surtout des financements. Restez donc à l'écoute avec nous sur RFI.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Et comme promis, notre grand invité de la semaine, il est interrogé par Charlotte Cosset et Olivier Roger. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Nos deux spécialistes de l'économie africaine sur RFI, vous allez évoquer la relance économique en Afrique avec Martha Diop, qui n'est autre que l'actuel directeur général de la SFI, la Société Financière Internationale.
Et son rôle est de faciliter la création et la croissance des entreprises dans les pays en développement, en particulier dans les marchés émergents. Martha Diop dirige la SFI depuis un peu plus d'un an, depuis le 1er mars 2021.
Il était auparavant vice-président de la Banque mondiale en charge des secteurs de l'énergie, des transports, du développement numérique. Et avant cela, Martha Diop dirigeait les opérations de la Banque mondiale pour l'Afrique, un poste qu'il a occupé durant 6 ans, poste dont l'impact est jugé important pour les économies africaines.
Et d'impact, il va en être essentiellement question au cours de cet entretien. Impact sur la croissance africaine, sur ses PME et sur son commerce. Martha Diop, bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, en quelques mots, quel bilan tirez-vous de votre première année à la tête de la SFI?
Je suis arrivé en pleine pandémie et la pandémie a révélé que notre mission est plus importante que jamais. La situation actuelle est difficile pour nombre de pays. Ceci étant dit, nous avons pu saisir ce moment pour répondre et aider les pays dans le monde à répondre à cette crise. La SFI a fait 31,5 milliards de dollars cette année à travers le monde et 11,9 milliards, presque 12 milliards, sont allés dans le financement des entreprises dans les pays fragiles et touchées par la crise. Nous avons également répondu à cette crise par une initiative qui s'appelle la Fast Track COVID-19 Facility, qui est dotée de 8 milliards de dollars et qui a été approuvée en mars. Elle nous a permis de débourser à hauteur de 6 milliards à la fin de l'année 2021.
Alors, monsieur Diop, votre début de mandat a été marqué par une forte crise économique et une reprise de l'inflation mondiale. Les prix des denrées alimentaires, notamment, flambent, et plus encore depuis la crise ukrainienne. Comment aider les entreprises à atténuer ce choc inflationniste mondial ?
Nous avons aujourd'hui une inflation qui résulte d'un déséquilibre massif entre la demande, une demande qui est importante, qui a été encouragée par les fortes mesures de relance monétaire et budgétaire dans les pays, et une offre qui est perturbée par des goulets d'étranglement logistique. Et cela affecte particulièrement les pays en développement. Par exemple, en Afrique du Nord, on voit que 46% de l'approvisionnement en céréales est fait à partir de la Russie et de l'Ukraine. Et donc, on voit ces économies directement impactées par cette situation que vous avez décrite. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça ? C'est travailler sur l'offre. Travailler sur l'offre, c'est-à-dire enlever tous les goulets d'étranglement qui permet justement aux entreprises de pouvoir accroître l'efficacité des chaînes de valeur. Un des axes que nous avons au niveau de la SFI en ce qui concerne l'Afrique, c'est de saisir cette opportunité de cette zone de libre-échange pour pouvoir accroître le commerce interafricain. Il est bon de noter que le commerce interafricain a augmenté de manière significative au cours des dernières années, mais nous pensons qu'on doit faire beaucoup plus, on doit plus intégrer les secteurs économiques des pays, avoir plus de spécialisation dans les pays afin de pouvoir intégrer de manière efficace les chaînes de valeur.
Donc, mais très concrètement, Makhtar Diop, qu'est-ce qu'il faut faire quand, par exemple, à cause de la pandémie, le coût du transport maritime explose ? Comment adapter une stratégie nationale à des événements brutaux comme cette pandémie de Covid-19, comme l'explosion du coût du transport maritime ? Vous l'avez dit, il faut stimuler l'offre locale. Comment on fait-on concrètement ? Par quelles mesures ?
D'abord, mettre les ressources financières aux entreprises pour qu'elles puissent faire face aux investissements et avoir le capital nécessaire pour financer leurs activités. C'est ce que nous avons fait à travers le financement accru que nous avons apporté à l'Afrique, le commerce, ce qu'on appelle trade financing. Nous allons augmenter d'1 milliard ce que nous faisons en trade financing pour l'Afrique avec un focus particulier sur le commerce interafricain.
Alors la pandémie de Covid-19 a entraîné une prise de conscience africaine de la nécessité de faciliter d'abord l'importation de produits médicaux et de vaccins sur le continent et aujourd'hui d'y développer la production de ces mêmes produits. Désormais, plusieurs industriels ont annoncé vouloir localiser des usines de vaccins en Afrique. Dans ces cas, comment intervenez-vous ? Est-ce que vous leur prêtez de l'argent ? Comment ça se passe ?
Ça a été un de mes chantiers les plus importants au cours de cette année. Il y a un an, quand on parlait de produire des vaccins en Afrique, on nous regardait en se posant la question de savoir si on était vraiment réaliste. C'est un défi que la SFI a pris et a saisi et nous avons réussi, je pense, à contribuer de manière significative. Aujourd'hui, nous travaillons avec l'Institut Pasteur de Dakar, avec les autorités du Rwanda, avec l'Afrique du Sud, avec le Ghana, pour la production de vaccins. Ce que nous faisons, c'est que nous pensons que ce sont des activités qui doivent être financées par le secteur privé, dont nous structurons, nous syndiquons des financements pour pouvoir justement attirer des investissements dans ce secteur. Nous sommes très, très avancés, dans le cas du Sénégal et du Rwanda, pour mettre en place des structures commerciales qui pourront produire des vaccins. Il y a eu le Kenya qui a signé également un accord avec un producteur de vaccins. Et nous allons travailler également avec les Kenyans et cette société pour pouvoir aider à la production de vaccins.
Mais ça veut dire quoi, Makhtar Diop ? Ça veut dire que c'est vous qui, par exemple, identifiez ce producteur privé de vaccins et lui conseillez d'aller au Kenya ? Ou est-ce que, au contraire, vous conseillez aux autorités kenyanes de travailler avec telle entreprise ? Ou est-ce que vous attendez que tout le monde a fait affaire pour venir en disant « voilà ce qu'on peut vous proposer pour vous aider ?»
C'est l'un et l'autre. Des fois, le pays a déjà commencé des discussions et nous y joignons. Et dans d'autres cas, le pays n'a pas commencé les discussions et nous sollicite pour qu'on les conseille dans ce domaine. Donc, nous avons plusieurs cas de figure. Et dans tous les cas de figure, nous sommes impliqués très, très tôt dans le processus. Et c'est ce qui se passe actuellement avec l'Institut Pasteur de Dakar. On a signé un accord de conseil et on va syndiquer l'ensemble des ressources des entreprises, des investisseurs dans ce domaine et de même avec le Rwanda. C'est un bon exemple de ce que je voulais dire pour la création de chaînes de valeur. Aujourd'hui, par exemple, dans ce cas, le Rwanda va travailler avec le Ghana pour que le Ghana aide du cap and fill, c'est-à-dire mettre les vaccins en bouteille. Donc le Rwanda va produire les ingrédients pour les vaccins et la mise en bouteille sera faite au Ghana.
Ça m'amène à la question suivante. Lorsqu'on vous présente des projets d'investissement, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'immobilier ou d'autres domaines, est-ce que vous regardez attentivement dans quelle mesure ces projets qu'on vous présente, ces entreprises qui sonnent à votre porte, vont contribuer à créer des chaînes de valeur locales? Est-ce que c'est le déterminant premier de votre incitation à mettre de l'argent dans ces projets africains?
Ce n'est pas le déterminant premier, ce sera un déterminant de plus en plus important. Ce que nous faisions jusqu'à présent, c'est de voir si ce projet avait un impact dans le pays, s'il créait les emplois nécessaires, s'il aidait à améliorer la compétitivité du pays. Maintenant, en plus de cela, nous regardons de plus en plus comment on peut créer des chaînes de valeur régionales et cela sera de plus en plus un critère que nous utiliserons dans l'analyse des projets.
Cette pandémie a révélé l'importance justement du retour de l'État dans son rôle à la fois de régulation mais aussi de protection. Lorsque vous discutez avec des entreprises, puisque vos interlocuteurs sont d'abord les entreprises, est-ce que vous tenez compte justement de ce rôle de protection que l'État est amené de plus en plus à jouer, surtout dans les temps troublés que nous vivons?
Dans toutes les économies, l'État a un rôle à jouer, que ce soit aux États-Unis, que ce soit à Singapour, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Kenya, que ce soit au Maroc. Le rôle de l'État, c'est de réguler des secteurs, parce que les secteurs qui ont besoin d'être régulés, on a besoin d'avoir des termes de compétition qui soient transparents, on a besoin de protéger le consommateur là où il doit être protégé. En ce qui concerne l'Afrique, il est clair que les besoins d'investissement sont énormes, qu'il y a de la place pour le secteur privé et pour le secteur public. Le secteur public sera plus contraint parce qu'ils font face à des dépenses importantes dans le domaine de la santé, dans le domaine de la protection sociale et pour aider à réduire les chocs au niveau des populations les plus pauvres. Donc dans tous ces domaines, l'État a un rôle pour protéger les démunis par des subventions et tout ça prend une grande partie des ressources de l'État. Donc dans les secteurs des infrastructures, et dans d'autres secteurs, il est de plus en plus difficile pour les pays d'investir et le secteur privé a un rôle essentiel à jouer pour cela.
Par exemple, Maktar Diop, si on prend une politique publique comme celle qui est menée depuis quelques années en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, par exemple, ont décidé de développer la transformation des produits agricoles, que ce soit l'anacarde ou le cacao, et défiscalisent une partie des investissements consacrés à cette transformation des produits agricoles. Quand ils définissent une politique publique de ce type, est-ce qu'ils vous consultent? Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous les approchez? Et est-ce que vous mettez vos investissements en adéquation avec cette politique publique définie par un État?
Absolument. Je peux vous parler du côté de la Banque mondiale parce que j'ai été très impliqué justement dans ces questions d'anacarde. Nous avons mis à disposition des autorités ivoiriennes des ressources importantes pour pouvoir améliorer l'efficacité de la filière de l'anacarde. Pourquoi? Parce que nous considérions que c'est un secteur essentiel où on peut avoir une valeur ajoutée importante et où il y a un potentiel de création d'emplois qui n'a pas été exploité totalement. Si vous regardez bien ce qui s'est passé dans l'anacarde en Afrique, l'anacarde était récoltée, envoyée en dehors de l'Afrique pour être transformée dans un processus très simple, très primaire. Il s'agit simplement de griller l'anacarde et de le mettre dans des sachets et de le réexporter. Ceci pouvait être fait et doit être fait dans les pays africains. Ce n'est pas une technologie compliquée. Donc ce que nous avons essayé de faire à ce moment, c'est d'accompagner les producteurs pour augmenter leur productivité au niveau de l'anacarde, de créer les conditions pour attirer plus d'investisseurs du secteur privé dans ce domaine. Donc lorsque nous avons fait ça au niveau de la partie publique du groupe de la Banque mondiale, la SFI a travaillé avec des investisseurs et a mis à la disposition des ressources pour investir dans ce secteur et procéder à la transformation première de l'anacarde et justement d'augmenter la valeur ajoutée. Donc il y a une complémentarité ici entre ce que le groupe, la partie publique du groupe de la Banque mondiale fait et la partie que je dirige à l'heure actuelle peut faire et sur la base justement de la stratégie qui a été définie par le gouvernement ivoirien qui est d'augmenter la valeur ajoutée dans le domaine agricole.
Alors, on l'a compris, vous plaidez pour un développement du partenariat public-privé. Comment vous intervenez dans ce cas-là? Est-ce que vous prêtez au privé, au public?
La SFI prête au privé, la Banque mondiale prête au public, si je veux simplifier. Et MIGA, qui est notre institution de garantie, garantit le risque politique. Donc, on a les trois instruments qui nous permettent justement d'attirer des investissements directs étrangers dans les pays. Mais pour moi, il ne s'agit pas simplement d'attirer des investissements directs étrangers, Il s'agit également de mobiliser l'épargne locale pour pouvoir investir dans les secteurs productifs. Et c'est quelque chose que je souhaiterais, durant mon mandat à la SFI, accélérer.
Alors, c'est une question très intéressante, Marc Tardiop. Comment fait-on aujourd'hui, quand on est à la tête de la SFI, pour aider les États et les acteurs africains à augmenter, à accroître l'épargne et à lever de l'épargne locale ou nationale? Par quel mécanisme?
Souvent, quand on discute avec les entrepreneurs africains, ils font état d'un certain nombre de contraintes. La première, c'est ne pas avoir accès à des ressources à long terme. Très souvent, les banques dans les pays africains n'ont que des dépôts à court terme et donc ne peuvent avoir que des emplois à court terme. Mais cela n'est pas suffisant pour pouvoir inciter l'investissement dans nos pays. Donc, il faut pouvoir augmenter la disponibilité des ressources à long terme pour que les investisseurs africains puissent amortir leurs investissements sur une durée plus longue.
Comment fait-on concrètement pour générer cette épargne à long terme, sachant que les États, par exemple, émettent des bons du Trésor très régulièrement?
Il s'agit de faire deux choses, et d'augmenter d'abord la capitalisation de certaines banques. Quand on regarde dans la zone UEMOA, la capitalisation des banques est relativement faible, ce qui fait qu'elles n'ont pas beaucoup de capitaux propres et que leurs ressources sont rapidement prises par justement les émissions que le Trésor des pays peut mener. Donc ce que nous sommes en train de faire très concrètement à l'heure actuelle, c'est de parler beaucoup aux investisseurs institutionnels pour qu'ils aient une vision moins biaisée du risque Afrique, de travailler sur l'intermédiation financière et troisièmement, de travailler avec les pays pour améliorer le climat des affaires et réduire le risque des investissements qui sont menés dans les pays.
On marque une courte pause dans cet entretien avec Marc Tardiop, directeur général de la Société financière internationale. On le retrouve dans un petit instant avec Charlotte Cosset et Olivier Roger.
Valiente o gallina, la bolsa o la vida, picar medicina, chupar golosina, perder la partida, beber tu saliva, jugarme la vida, buscarme la ruina, tocarte, 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 tocarte. Deliciosa. Tango y bosa, peligrosa, caprichosa, vuelta y vuelta, vino y rosa, sudorosa, ma...
RFI.
RFI et RFI.fr pour écouter ou réécouter cet entretien avec Marc Tardiop, directeur général de la Société financière internationale, la branche de la Banque mondiale dédiée au secteur privé dans les pays en développement. On reprend avec une question de Charlotte Cosset.
Marc Tardiop, vous avez étendu les domaines de la lutte en amenant la SFI sur des terrains qu'elle n'avait pas occupés jusqu'à présent, les industries culturelles par exemple, que beaucoup d'États considèrent comme accessoires et qui pourtant sont de véritables gisements d'emplois et de croissance, comme si l'on prend le cinéma au Nigeria, ce sont près d'un million d'emplois directs et indirects selon certaines estimations. Qu'allez-vous faire ou que faites-vous déjà pour soutenir l'économie culturelle ?
Un des objectifs que nous avons, c'est d'élargir la base de nos clients. Je pense qu'il faut ne pas se limiter aux clients traditionnels dans les infrastructures, dans les entreprises qui sont bien établies, mais de voir vraiment les tendances et de pouvoir s'appuyer sur ces tendances. Et pour moi, l'industrie culturelle est quelque chose de très important. C'est de s'asseoir avec tous les acteurs. D'ailleurs, je vais en mission en Afrique. Je vais m'asseoir avec des intervenants dans le secteur d'industrie créative et les écouter et savoir exactement quels sont les besoins qu'ils ont pour pouvoir adapter nos produits à leurs besoins. C'est un secteur complexe et il est très important pour nous, si on veut attirer le secteur privé de manière significative dans le secteur des industries culturelles, d'écouter, d'avoir un dialogue en amont et pour pouvoir identifier de manière précise les besoins, mesurer les risques et pour pouvoir donc soutenir ces industries culturelles en Afrique. Je pense que c'est une source importante de développement, c'est une source importante de création d'emploi, c'est une source importante d'inclusion.
Marc Tardiop, une autre question et un reproche qui vous est souvent formulé, notamment de la part des ONG, c'est de ne pas suffisamment prendre en compte l'impact environnemental lors de vos investissements. Est-ce que lorsqu'aujourd'hui vous décidez d'investir l'argent de la SFI dans telle ou telle entreprise de production d'énergie ou dans tel projet immobilier, vous prenez suffisamment en compte la question environnementale?
C'est essentiel. 85% de notre portefeuille en 2023 sera ce qu'on appelle Paris Aligned, ça veut dire sera aligné sur les critères de la COP21 à Paris. Et en 2025, 100% de nos projets seront alignés aux principes qui ont été élaborés lors de la COP21 à Paris.
Mais est-ce que ces principes de la COP21 ne sont pas déjà un peu dépassés?
La communauté internationale encore continue à s'appuyer sur cela, y compris les ONG. Mmh. Donc c'est le critère sur lequel nous fondons et nous travaillons. Cela étant dit, nous avons été la première institution à émettre des bons verts. Il y a plus de 10 ans de cela. Vous voyez aujourd'hui l'impact que ça a eu sur le marché. C'est la SFI qui a lancé cela et qui a créé un mouvement pour que les gens commencent à financer les économies vertes. Nous avons lancé 2 autres produits à la COP26, ce qu'on appelle MCCP One Planet et Best Bond, qui visent également à financer l'économie verte. Nous lançons dans des investissements qui aident à réduire la pollution plastique, marine plastique. Nous l'avons fait avec une de nos sociétés, Indorama. Donc nous innovons beaucoup et nos innovations sont reprises largement par le marché. Nous avons révisé toutes nos procédures en matière de protection environnementale et sociale. Cela s'est fait en collaboration avec les ONG. Elles ont été largement consultées. Leurs commentaires et suggestions ont été intégrés dans nos nouvelles politiques d'environnement et de protection sociale. Et je crois que ce que nous avons aujourd'hui est certainement ce qu'il y a de mieux dans ce domaine en ce qui concerne le développement du secteur privé.
Dernière question, Marta Diop, pour terminer cette interview. Je voulais revenir sur justement un exemple cité par plusieurs ONG, c'est celui de la Tata Mundra Power Plant en Inde, un projet qui est soutenu par la SFI et qui a généré une pollution des nappes phréatiques. Est-ce que la SFI ne devrait pas travailler à mettre en place un mécanisme de dédommagement des populations qui seraient victimes de pollution collatérale dans des projets que vous soutenez ?
Nous sommes en train de discuter la question, c'est ce qu'on appelle les remedies, et nous sommes en train de discuter quels sont les remedies qui sont les meilleurs pour aider les entreprises. À l'heure actuelle, lorsqu'une entreprise ne respecte pas les normes environnementales et sociales, l'entreprise doit dédommager les populations. C'est pas à nous, parce qu'il faudrait quand même être très clair sur les responsabilités. C'est pas nous qui mettons en place le projet, nous prêtons à une entreprise. Donc l'entreprise est in fine responsable pour la mise en œuvre des normes sociales et environnementales auxquelles elles adhèrent et qu'elles ont accepté de mettre en œuvre lorsqu'elles ont pris nos ressources. Donc je crois qu'il faut être très clair sur le niveau de responsabilité. Cela étant dit, nous sommes également à l'heure actuelle en train de réfléchir sur ce qu'on peut faire pour travailler dans ces domaines de remedies et d'appui des populations. Nous avons eu plusieurs cas, nous avons été très impliqués dans les discussions pour s'assurer que les populations soient compensées de manière juste.
Merci beaucoup, Marta Diop.
Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous parler.
Merci à tous les trois, Marta Diop, directeur général de la SFI, Charlotte Cosset, Olivier Roger. Un extrait de cet entretien en version écrite sur le site internet de Radio France Internationale. Il est temps de vous souhaiter une excellente semaine dans ce monde inquiétant, mais qui tente de trouver des solutions. En Europe, par exemple, la taxe carbone aux frontières semble sur la bonne voie, avec les Allemands qui s'y sont ralliés. Dans les prochains jours, nous suivrons à Dakar le Forum mondial de l'eau, l'eau indispensable à la paix et au développement. Nous verrons quelles idées vont émerger. Merci à Olivier Roux et à Mathieu Leroy qui ont réalisé cette émission. N'oubliez pas Facebook et Twitter, RFI Echo. Bonne journée, bonne soirée, retour de l'information dans quelques secondes, portez-vous bien.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.